soir. Des organisations de la société civile de la RDC et quelques mouvements citoyens ont signé vendredi dernier à Paris, en France, un document appelé « Manifeste du citoyen congolais ». Selon les signataires, ce document prône des actions pacifiques et non violentes visant à empêcher le président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017. Les signataires, de ce manifeste exigent une transition citoyenne dont les animateurs seront désignés à la suite d'une concertation nationale ayant pour mission principale d'organiser des élections et qui n'en seront pas candidats. Quelle analyse faire de cette initiative? C'est notre thème de ce soir, mesdames et messieurs. Pour en parler, je reçois professeur André Mbatamangou. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes un des initiateurs du manifeste du citoyen congolais. Vous êtes également constitutionnaliste et professeur des universités et aussi directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Professeur Ambroise Kamukuni, bonsoir. Professeur Kamukuni, voilà, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Le professeur Kamukuni est professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités. Il est aussi député national de la majorité présidentielle. Professeur Pierre Virgence, bonsoir. Voilà, il va aussi nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est professeur à l'université de Liège en Belgique et à l'université de Butembo en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Debout congolais, levons-nous et Sili, c'est fini. Ce sont les slogans que lancent et promeuvent 32 signataires du manifeste du citoyen congolais adopté à Paris le 18 août dernier. Ces signataires, acteurs de la société civile et des mouvements citoyens, analysent la situation qu'ils qualifient de crise sociopolitique de la RDC et posent des jalons pour une solution en application de l'article 64 de la Constitution. Un des signataires du dit manifeste, président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la FIDH, explique le bien fondé de ces documents. Paul Nsapou a été joint de Paris par Jeff Ngoy.
Le manifeste des citoyens congolais est Sili Inaisha Imeni Wajiki. C'est un document mis à la disposition du peuple congolais à la suite de l'appel lancé par la CENCO le 23 juin 2017. Je rappelle, le pays va très mal et nos évêques nous demandent de nous mettre debout pour sauver la nation qui est en danger. Alors, ce manifeste des citoyens congolais est à l'heure qu'il est une sorte de Bible, une sorte de document qui démontre son engagement et qui l'oblige de sauver la nation. Voilà, puisque la situation est pire que l'on ne le pense actuellement. La crise a atteint des dimensions inacceptables du fait, bien sûr, d'un gouvernement, d'un régime qui ont échoué sur toute la ligne.
Professeur André Mbatamangou, vous êtes un des initiateurs du manifeste du citoyen congolais. Certains, y compris parmi les signataires de ce manifeste, professeur, s'interrogent sur la nécessité de créer un nouveau mouvement citoyen quand de nombreux existent déjà. Quelle est la particularité de celui que vous venez de mettre en place, professeur Mbatamangou?
Bon, merci pour l'invitation. Il faut dire que nous n'avons pas pu créer à Paris des Congolaises et des Congolais qui se sont retrouvés et il y a quelques jours, ne se sont pas retrouvés à Paris pour créer un nouveau mouvement citoyen, mais plutôt pour lancer un appel. Et c'est cet appel-là que nous avons appelé Manifeste du citoyen congolais. Et c'est en réalité, ces Congolaises et ces Congolais, porteurs chacun d'une faction de la souveraineté nationale, qui ont décidé de se mettre debout pour dire « Et Sili, Imene, Kouajiki, Inaïcha, c'est terminé ». Terminer la tragédie et dans laquelle notre peuple a été plongé depuis plusieurs années, c'est terminer avec toutes ces manœuvres de fraude à la Constitution, c'est terminer avec tous ces relents autoritaires dans le pays, il faut retourner à l'ordre constitutionnel, il faut se mettre debout pour cela. Et ceux qui ont participé à la rencontre de Paris n'ont pas mis en place ces mouvements insurrectionnels comme on l'entend. Ils n'ont pas fait un coup d'État, mais ils ont voulu s'assumer et pour défendre la constitution de la République.
Alors, professeur, dans le manifeste du citoyen, il est notamment dit, déclarons que le président Joseph Kabila, dont le dernier mandat constitutionnel a expiré le 19 décembre 2016, exerce le pouvoir en violation manifeste de la Constitution de la République démocratique du Congo et est passible de l'infraction de haute trahison conformément à son article 165 alinéa 1er. Professeur, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Non, mais c'est la Constitution qui le dit. Je crois que les participants à la rencontre de Paris, là-dessus, ils n'ont rien dit de nouveau. Vous savez qu'il devait y avoir élection en décembre 2016. Il n'y a pas eu élection. Et il est connu de tous dans notre pays que toutes les institutions politiques sont aujourd'hui illégitimes. De la présidence de la République, en passant par les assemblées provinciales, le Sénat, l'Assemblée nationale, toutes ces institutions sont illégitimes. On ne discute pas de cela. Et le président de la République, en fonction, en vertu du serment qui avait été prêté au terme de l'article 64 et 74, il a mission d'observer et de défendre la Constitution. Donc, il n'a pas tenu, et au président de la République, de la défendre contre toutes les velléités de violations, contre toutes les fraudes. Eh bien donc, les participants à la rencontre de Paris n'ont fait que le constat que toutes les institutions sont illégitimes, le constat que tout le monde sait, la Constitution est régulièrement violée dans notre pays, et il a été mis en place en réalité un système de fraude constitutionnelle, où, pour emprunter les mots de mon collègue Kamukunu que vous aviez cité tout à l'heure, et qui a rédigé un livre intéressant sur la fraude, il s'est institué donc dans notre pays un système de fraude à la Constitution. La Constitution n'a pas été respectée et même le dialogue qui avait été conclu au mois de décembre 2016, il n'est pas respecté. Le pays va très mal et il était temps que ces représentants de la société, de la communauté congolaise décident de se mettre debout et lancent un appel à la nation tout entière de se mettre debout pour que le pays retourne à l'ordre constitutionnel.
Professeur, vous exigez le départ du président Joseph Kabila et une transition citoyenne, dites-vous dans le manifeste du citoyen, dont les animateurs seront désignés à la suite d'une concertation nationale et en mission principale d'organiser des élections crédibles, transparentes, ouvertes et libres et qui n'en seront pas candidats. Professeur, cette transition que vous évoquez ne viole-t-elle pas elle-même l'accord de la Saint-Sylvestre et la Constitution ?
Bon, le problème ici, il faut l'admettre, c'est que rien n'est respecté dans notre pays.
Et c'est pourquoi vous voulez faire la même chose.
C'est pas pour rien que le thème de la conférence était le retour à l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même n'est pas respectée. Et vous le savez très bien. Tout le monde le sait. L'accord du 31 décembre 2016, il n'est pas respecté. Il a été tricoté de toute façon. On a créé un arrangement particulier qu'on a fabriqué de toutes pièces pour plaire à la majorité au pouvoir. Donc rien n'est respecté du tout. C'est pourquoi les participants, les citoyens en fait, ils se sont dit, il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Ça n'est fini. Ça doit être terminé. C'est ce qu'ils ont dit. Et Sili, cette aventure de négociation, de dialogue, des concertations avec les mêmes hommes, un groupe d'individus qui croient avoir pris le peuple en otage, c'est donc terminé pour le peuple congolais qui doit donc revenir à l'ordre constitutionnel. Et ceux qui vont faire cette transition doivent être des personnes n'ayant pas les ambitions de se présenter aux élections prochaines. C'est en fait l'une des résolutions qui a été prise par les participants à la conférence de Paris. Parce que dès lors qu'une transition est animée par des personnes indépendantes, des personnes intègres et pas des nombreuses personnes corrompues que nous connaissons dans ce système. Dès lors qu'il y a une transition animée par des personnes intègres, il y a moyen d'avoir des élections libres et transparentes dans ce pays. Et il nous faut une transition dirigée par des personnes qui ne seront pas elles-mêmes candidats. On doit en finir un peu avec ce système où les mêmes personnes reviennent. Les mêmes individus reviennent, ils croient qu'ils ont pris tout un peuple en otage et ils croient que tout un peuple est là pour les écouter et pour danser à leur musique, je crois. Et c'est cela qui a été décidé à Paris, c'est terminé Essili.
Professeur, c'est terminé. Essili, concrètement, passez-moi l'expression, ça rime à quoi? Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Concrètement, ça veut dire quoi? Brièvement, s'il vous plaît.
Bon, en réalité, on n'invente rien. Vous êtes Congolais comme moi et tous les Congolais qui nous suivent. Quel est notre hymne national? C'est qu'on a déjà parlé, le peuple doit se mettre debout. C'est le debout congolais. En réalité, on invente rien parce que vous le dites, il n'y a rien de nouveau, mais il est temps de s'assumer. Debout congolais, c'est un impératif catégorique, et comme l'a rappelé l'intervenant de tout à l'heure, le pays va mal et même très mal.
Merci.
Il faut, à ce moment-là, que le peuple se mette debout et ici applique l'article 64.
Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Ambroise Kamukuni, bonsoir, vous êtes en ligne. Professeur Kamukuni.
Bonsoir.
Bonsoir, professeur. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités. Vous êtes aussi député national de la majorité présidentielle. Professeur, comment vous analysez cette initiative dont vous venez de suivre les détails avec le professeur Mbata?
Oui, dans le cadre de la liberté qui appartient à chacun de prendre des initiatives, il y a lieu de reconnaître à chacun ce qui lui revient comme droit. Mais seulement dans notre pays, c'est qu'il y a un problème d'interprétation. Chacun se croit en mesure d'interpréter la Constitution de la meilleure façon qu'il soit. Et dans la lecture de la Constitution, chacun cherche à lire la Constitution selon ses propres lunettes. Et là, on sait qui le favorise et qui favorise ses options et ses déclarations. Et entendre le créateur de ce nouveau mouvement citoyen, il y a lieu de comprendre qu'il se trame plutôt un soulèvement, une révolution. Et lorsqu'on parle de soulèvement, on parle de révolution. On sort de la Constitution. Ça, il faut que chacun de nous le reconnaisse. Si j'ai bien compris, le manifeste qui a été signé à Paris prévoit qu'il soit mis en place rapidement ce qu'on appelle une transition citoyenne qui mettrait en place à l'issue des négociations, encore des négociations, parce que nous sortons de beaucoup de négociations qui n'ont pas abouti à cause de l'égoïsme des uns et des autres. Qu'ils se mettent, prévoient, se manifestent, en place rapidement une transition qui serait gérée par des personnes qui auront été désignées dans cette concertation encore une. Et en ce moment où est passée la Constitution, justement, il y a lieu de comprendre qu'il y a effectivement un problème dans notre pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu organiser les élections à temps. Mais cette situation est réglée par la Constitution elle-même. La Constitution prévoit justement, dans certaines de ses dispositions, dont l'article 70, les autres articles qui concernent tous les postes électifs, qu'il y a lieu qu'on organise les élections et que si les élections ne sont pas organisées à temps, que ceux qui sont en place gèrent la chose publique jusqu'à ce que les élections soient organisées. Je crois que c'est ce qui s'est passé depuis lors,
professeur,
au niveau du Sénat. Ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'Assemblée nationale et ce qui se passe également au niveau de la présidence de la République.
Professeur Kamukuni.
Ça fait partie de la Constitution, justement.
Professeur Kamukuni.
Mais lorsque... Je vous écoute.
Professeur, pourquoi le fait de recourir à l'article 64 de la Constitution vous fait-il penser à un soulèvement, à une révolution?
parce que l'article 64 ne prévoit que, bon, cet article a deux alinéas. Le premier alinéa permet au peuple de s'opposer à ceux qui prennent le pouvoir par la force ou qui l'exercent en violation de la Constitution. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Cet article a aussi un alinéa 2. Que dit cet alinéa? L'alinéa prévoit que ceux qui tentent de renverser le régime constitutionnel doivent être poursuivis d'une infraction imprescriptible contre la nation. Est-ce que ceux qui prévoient de pouvoir s'opposer ont prévu la suite des événements? Parce que, comme je viens de le dire, les dispositions constitutionnelles elles-mêmes prévoient que lorsque les élections n'ont pas été organisées, ceux qui sont en place restent en place jusqu'à l'élection de ceux qui doivent les remplacer. C'est constitutionnel. On ne doit pas lire la constitution en diagonale. C'est ce que je venais de critiquer. La constitution, la plus de facettes. On ne doit pas lire la constitution seulement selon ses opinions, selon ses options. Et donc, il faut lire entièrement la constitution.
Professeur Kamkouni.
Oui.
Professeur, doit-on comprendre par vos propos que contrairement à ce que propose le manifeste du citoyen congolais, une transition sans le président Kabila serait utopique?
Mais une transition sans le président Kabila, un président qui a été élu, qui exerce ses fonctions et qui attend son remplaçant pour lui céder le pouvoir, vous trouvez que le président Kabila va céder le pouvoir à des personnes qui ont ramassé le pouvoir dans la rue à la suite de certaines concertations, et vous estimez ça constitutionnel?
Voilà, merci professeur Ambroise Kamkouni. Je vous redonne également la parole tout à l'heure. Professeur Pierre Virgence, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Professeur, vous êtes également en ligne, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien, oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Vous avez suivi vos collègues, les professeurs Mbata et Kamkouni. Professeur, comment vous analysez cette initiative?
Mais, c'est clair que cette initiative marque la très grande difficulté dans laquelle se trouve le Congo pour le moment. Elle marque aussi le sentiment de non-respect de la Constitution que la plupart des Congolais éprouvent quand ils regardent l'action et l'inaction du gouvernement actuel. Et donc, effectivement, c'est une tentative de trouver une solution à l'inertie, je dirais, du gouvernement actuel et du président Kabila. Donc, c'est effectivement la première analyse, c'est la marque du fait que le système congolais semble bloqué depuis bien plus d'un an, hein, et que effectivement les citoyens ne savent plus comment faire respecter la Constitution à ceux qui devraient être les premiers à la respecter, mais qui visiblement ne la respectent pas. Je dirais tous les habitants du Congo savent bien que si la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'a pas eu les moyens pour organiser les élections en temps utile, c'est parce que le budget de l'État avait été décidé de manière telle que l'argent ne devait pas arriver. Donc c'est clair que la responsabilité des gouvernements de 2015 et de 2016 est complètement engagée, et la responsabilité du président de la République également. Et donc, quand mon collègue Kamkouni cite le deuxième alinéa de l'article 64, il ferait bien d'essayer de comprendre ce que ça signifie. pour les Congolais, il y a bien pour le moment, depuis l'an dernier, une tentative de renversement du régime constitutionnel par ceux qui devaient protéger la Constitution. Et effectivement, la plupart des Congolais considèrent maintenant que le président Kabila et le gouvernement qu'il a nommé est illégitime parce qu'effectivement, il est le fruit d'une non-organisation des élections qui n'est pas tombée du ciel, qui a été programmée par le gouvernement. C'est en tout cas le point de vue de la majorité des Congolais. Peut-être qu'en son âme et conscience, le président Kabila voulait organiser les élections, mais alors il est bien impuissant, le pauvre, pour ne pas savoir organiser des élections dans un pays qui a su en organiser en 2006 et en 2011. Et donc effectivement, si on lit le deuxième alinéa de l'article 64, eh bien, il somme effectivement comme une accusation contre ceux qui sont au pouvoir maintenant, toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Or, tenir le pouvoir sans organiser des élections, c'est bien renverser le régime constitutionnel. Donc, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, et elle est punie conformément à la loi. Et donc, effectivement, ça, c'est l'opinion de la majorité des Congolais. Le vrai problème qui se passe maintenant au Congo, c'est la quasi-impossibilité pour l'opinion publique de se faire entendre des dirigeants qui, eux, ne veulent pas entendre l'opinion publique et, qui peuvent, en quelque sorte, mépriser l'opinion de leurs concitoyens.
Professeur...
Ça, c'est assez impressionnant de voir que ce régime est organisé militairement de façon à résister effectivement contre une attaque même du peuple contre ses dirigeants. Et en même temps, on voit bien que les journées villes mortes bien, sont des journées inefficaces puisque le peuple a quand même besoin de manger.
Professeur Virgence.
Le cynisme des dirigeants est effectivement présent.
Professeur Virgence, la création du rassemblement de l'opposition avait suscité des grands espoirs au sein d'une certaine opinion. Cette initiative, la création de ce mouvement citoyen, peut-elle compenser l'essoufflement du rassemblement comme l'estiment certains analystes?
En tout cas, c'est ce qu'espèrent ceux qui ont lancé ce manifeste, parce que en annonçant que les gens qui veulent aider à créer la transition ne seront pas candidats aux prochaines élections, ben, ils permettent effectivement d'enlever la possibilité que le gouvernement actuel utilise tout le temps, qui est la corruption de l'opposition une fois qu'elle se constitue. Parce qu'effectivement, c'est assez facile pour un pouvoir qui distribue beaucoup d'argent de façon illégale d'aller trouver des gens qui sont membres de l'opposition et d'aller les payer pour qu'ils se détournent du chemin collectif que l'opposition avait voulu tracer. Et par contre, maintenant, en disant que les signataires du manifeste et les gens qui organiseront la transition ne pourront pas être candidats, c'est une manière, effectivement, d'essayer de se protéger contre les tentatives de corruption du pouvoir en place. Mais malheureusement, la situation reste très compliquée parce que ben, militairement, ce sont quand même les gens du pouvoir en place qui tiennent effectivement la rue et qui tiennent
Merci.
Les bâtiments principaux.
Merci professeur Virgence. Professeur André Mbataille a pour vous cette réflexion qui vient de Bukavu.
Soyez tout moi, je vous appelle de Bukavu, si tu veux. Il est vrai et juste qu'en face de la situation actuelle, tout Congolais se sent réagir et s'exprimer. Mais moi, je me demande si la société civile et les mouvements citoyens n'embrassent pas assez de chemin pour finir cette perte. Un manifeste du citoyen qui voudrait le départ de Kabila fin décembre. Oui, mais par quel chemin sera-t-il possible quand on sait que techniquement, et même les non-instruits, le voient que les élections ne seront pas tenues. Les signataires de ce manifeste ne se sont pas laissés guider en réclamant à corps le départ de Kabila. Au lieu d'être acteur d'aide à l'organisation des élections, en mettant sous pression le Parlement pour le vote des lois importantes, corollaire des élections, le gouvernement pour le déblocage des moyens, la CENI pour la publication du calendrier et la communauté internationale pour son soutien.
Professeur Mbata, j'ajoute cette réaction de Mabela de Kisangani qui dit cette initiative des organisations de la société civile est louable, mais évoquer une transition sans M. Joseph Kabila me paraît incongru et n'a aucun soubassement juridique. Professeur, comment vous réagissez face à ces réflexions?
Oui, beaucoup de choses à dire. Premièrement, je voudrais réagir face à ce que mon collègue Kamukuni a dit tout à l'heure. C'est sur l'article 70. Et ici, je ne sais pas si je suis en train de reconnaître mon collègue. Mon collègue, j'ai en face devant moi l'important ouvrage que le professeur Kamukuni a écrit, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, où le professeur Kamukuni démontre que notre pays est basé sur un système institutionnalisé de la fraude constitutionnelle. Je suis étonné de ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire. C'est quand même, ça fait dommage que particulièrement à l'université de Kinshasa et dans la faculté de droit, des professeurs soient capables d'enseigner une chose et le lendemain de travestir la vérité pour servir les intérêts du pouvoir. Le prof a écrit effectivement ce que je dis là. C'est la fraude à la constitution. Je suis surpris. La constitution est violée et qu'il le sait lui-même. Comment, par exemple, lorsqu'on nomme les commissaires spéciaux qui n'étaient prévus par la constitution et il en faisait un, c'était en violation de la constitution. Je croyais qu'on ne peut pas parler d'une autre chose. Bon, rentrons à l'article avant de répondre à nos amis de Kisangani et de Bukavu. L'article 64 est mal interprété par la majorité présidentielle. Je voudrais que ce soit clair. L'alinéa deuxième ne contredit pas l'alinéa premier. Et je vous lis l'alinéa deuxième. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Mais le régime n'est plus constitutionnel. Ce qui est sanctionné, c'est toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Or, le régime en place n'est plus constitutionnel. Il ne respecte rien. On organise, par exemple, les élections de la CENI dans les provinces comme le Haut-Katanga et la Chouapa. Alors que la Cour constitutionnelle, l'institution suprême a réhabilité le gouverneur, le gouvernement se moque de la Cour constitutionnelle. Et on va nous dire que ce régime est constitutionnel? La CENI se moque de la Cour constitutionnelle, dont les arrêts sont pourtant sans appel et immédiatement exécutoires. C'est un régime qui a cessé d'être constitutionnel, et je crois que mon collègue devait le reconnaître. S'agissant de notre ami qui appelle de Kisangani, mais il ne faut pas être naïf. Lorsque nous disons l'appel, ce n'est pas l'appel, c'est l'appel du peuple congolais. Le debout congolais, ça s'adresse à tout le monde, y compris à celui-là même qui a posé la question. Nous ne sommes pas naïfs. Ce sont les fondateurs de la République qui posent dans l'île nationale debout congolais. J'appelle donc à notre compatriote qui a Kisangani, à celui qui a Bukavu, de se mettre debout. Donc, je dis ceci, l'article 64 dit ce qu'elle dit, et je dis, il y a une crise constitutionnelle, la CENI. Pourquoi s'appeler à l'organisation des élections? Il est clair que M. Nanga n'organisera jamais des élections libres et transparentes. C'est clair.
Professeur Mbata.
D'abord, il est en train de le faire pour les gouverneurs. Donc, c'est clair, on ne pouvait pas s'apesantir sur l'organisation des élections parce qu'on sait que M. Nanga n'organisera jamais des élections libres et transparentes. Finalement, pourquoi la transition, mais c'est comme a dit le professeur Pierre Vergent, c'est une tentative pour restaurer l'ordre constitutionnel. Nous disons qu'il y a crise constitutionnelle, eh bien, c'est une tentative de nous ramener à l'ordre constitutionnel que nous prenons.
Professeur, cette transition que vous soutenez sera de combien de temps?
Bon, et ce sera une transition courte, dont la mission essentielle sera l'organisation des élections. Donc, les élections sont organisées, sont terminées, eh bien, les dirigeants de la transition rentrent là où ils étaient, ils ne sont pas candidats aux prochaines élections, pour éviter justement la corruption qui atteint des limites inégalables au pays. Vous savez, tout est corrompu là-bas. Tout. La politique, c'est la corruption, c'est la prostitution politique. Les dirigeants qui te disent aujourd'hui qu'ils sont la majorité, demain ils seront dans l'opposition. Ceux qui étaient dans l'opposition, vous les voyez avec le pouvoir, c'est la prostitution, c'est la corruption qu'on n'a jamais vue. Et nous disons donc cette transition sera courte, organisée par des hommes intègres, et nous disons carrément c'est terminé cette histoire d'aventure avec un groupe d'individus qui a pris notre peuple en otage.
Merci professeur André Mbata. Professeur Ambroise Kamukuni, il y a pour vous cette réflexion qui vient de Kisangani.
C'est Marie-Paul Awa depuis Kisangani. Il est vrai que tout citoyen, au principe de l'article 64, a ses droits constitutionnels. Ainsi donc, toutes ces résurgences des blocs des Congolais démontrent la pression et le manque de soutien du système politique, y compris le non-respect de la Constitution, des accords du 31 décembre 2016 et de la résolution 2348 de l'ONU. Face à cela, il est politiquement conseillé aux autorités congolaises d'avoir l'intérêt d'écouter le peuple congolais, souverain primaire, pour éviter tout effritement de la nation et les sabotages indescriptibles de la population.
Professeur Kamukuni, cet auditeur rejoint pratiquement le professeur Pierre Virgence qui a notamment estimé que les dirigeants congolais restent sourds aux appels de l'opinion publique. Comment vous réagissez?
Oui, merci. Avant de dire quelque chose à ce sujet, l'auditeur qui vient de parler a donné un avis. Mais avant cela, j'ai entendu mon collègue André Mbata, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parler de la fraude constitutionnelle. Je ne veux pas ici discuter avec lui sur le sens de ce concept dont lui et moi connaissons bien la quintessence. Mais il est un fait que lorsqu'on parle de la fraude constitutionnelle, il faut bien avoir un composant. Et que je ne sais pas ce qu'on appelle fraude constitutionnelle dans ce cas. Je ne sais pas ce qu'on appelle violation de la Constitution. Il n'appartient ni à mon collègue André Mbata, ni à moi-même de déclencher cette recherche des fraudes ou des violations constitutionnelles. Lui et moi, nous savons quels sont les organes qui ont compétence pour estimer que telle disposition de la Constitution a été violée et quelle est l'interprétation qu'il faut en faire. Et avant qu'il intervienne, je disais qu'il y a des articles de la Constitution qui prévoient vraiment, lorsqu'il est constaté que les délais prescrits par la Constitution n'ont pas été respectés, comment la Constitution se débrouille pour régler la question. Et cela est fait. Lui et moi connaissons, les auditeurs qui nous écoutent connaissent également ces dispositions, parce que, en donnant l'exemple du Sénat, le Sénat a été élu pendant, depuis quelle époque? Et c'est là que le Sénat a continué à siéger. Les sénateurs ont continué à conserver leur légitimité jusqu'alors. Mais bien entendu, au moment où nous parlons, il y a des mouvements tels que le fameux mouvement citoyen qui a à la base ceux qui organisent le pouvoir en place. C'est-à-dire, la pratique qui est connue chez nous, c'est « occupe-toi que je m'y mets ». Je ne vais pas entrer dans ces détails-là de considérations particulières. Mais j'aimerais tout simplement expliquer que, de mon point de vue, en tant qu'homme doctrine, je sais ce que la Constitution prévoit. Je sais quelles sont les exceptions soulevées et arrangées par la Constitution. Nous ne pouvons donc pas nous perdre dans les conjectures dans ce genre d'explication. Quant à cette phrase, finalement, s'agissant de l'article 64 de la Constitution, les deux alinéas, bien entendu, comme je disais au départ, que chez nous, nous avons appris à lire de façon sélective les dispositions constitutionnelles.
Professeur Kamukuni.
Il y a lieu. Oui.
Est-ce que la majorité aussi n'est-elle pas en train de lire la Constitution de manière sélective du moment que ça l'arrange? Il y a l'honorable Lutundula qui dit concernant l'article 64, l'alinéa 2 de l'article 64 ne s'oppose pas au premier alinéa. Ce sont deux situations qui répondent à la situation d'exception dans la Constitution. Trouvez-vous normal que ceux qui sont au pouvoir n'organisent pas les élections, les bloquent et ordonnent en même temps d'étouffer des manifestations pacifique? Est-ce que cela est conforme à la Constitution, vous demande-t-il?
Je voudrais vous dire dans un premier temps que je n'agis pas ici. Je ne réponds pas ici en qualité de membre de la majorité présidentielle. Donc, c'est-à-dire, tant que je parle, Je ne dis pas que c'est la majorité qui a raison. Je ne dis pas que c'est l'opposition qui a raison. Pas tous. Ils savent comment ils contribuent tous les jours à compliquer la tâche de l'organisation des élections. Nous le savons tous. Nous savons, ce n'est pas seulement la majorité présidentielle qui est fautive dans la non-organisation des élections. Le collègue Le Tourneur, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, il sait bien comment on allait arriver là. Il est aussi de la majorité présidentielle. Quelle a été sa contribution pour que les élections soient organisées à temps? Et en ce qui concerne justement ce qui se passe pour le moment, à ce qui me semble, la CENI continue à enrôler. Nous sommes en train d'atteindre actuellement 39 millions d'électeurs.
Merci.
C'est pour quoi faire? C'est pour organiser les élections. Et si ceux qui viennent, qui veulent prendre le pouvoir par la force, envisagent de mettre en place un régime transitoire, est-ce qu'il est sûr que ce régime transitoire va organiser les élections
professeur.
Avant décembre 2017?
Merci, professeur.
Et décembre 2017. C'est la date qui a été fixée par la Constitution.
Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Pierre Virgence, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Colouésie.
Professeur Ignace Lala, depuis Colouésie, dans le Lualaba. Je pense que nous avons humilié notre situation en faisant d'elle une affaire des salons et rues du monde. Le fils du pays devrait venir mener le combat à l'intérieur avec ce peuple meurtri. Une transition encore, il me semble que les facteurs sont n'est pas pris en compte. Le cadre étant déjà tracé, il ne reste qu'à y revenir. Même la fameuse transition ne se ferait pas à l'étranger.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Patrick de Lubumbashi qui dit « À mon avis, l'initiative est bonne, mais mal partie et vouée à l'échec, d'autant plus que ça a été signé en dehors du territoire national et ces documents, au-delà de l'aspect politique, qui bloquent certainement le processus électoral, ne tient pas compte des aspects techniques et financiers pour achever le processus dans son ensemble. » Professeur Virgence.
En fait, je suis d'accord avec la première partie de cette intervention, c'est-à-dire que cette initiative du manifeste du citoyen, effectivement signée à l'étranger, le fait qu'elle soit signée à l'étranger, c'est déjà le signe qu'il est presque impossible d'organiser un débat démocratique à l'intérieur du territoire congolais, sauf sur les ondes de Radio Okapi. Et donc effectivement, ça veut dire qu'en dehors des espaces institutionnels au Congo, eh bien, il y a très peu d'espaces de liberté. Et on sait qu'effectivement, le pouvoir réprime. Et c'est pour ça que le manifeste a été signé à Paris. Et le fait qu'il ait été signé à Paris, c'est effectivement une trace de faiblesse. C'est le signe que c'est très difficile de s'organiser au Congo à cause de la répression qui a lieu pour le moment. Et je suis d'accord avec l'intervenant quand il fait remarquer que c'est un signe, effectivement, du fait qu'il y a très peu de chances qu'on puisse imposer cette dynamique-là du manifeste du citoyen aux dirigeants actuels. C'est pas parce que, les dirigeants ont raison, c'est parce que les dirigeants ont les armes en main. Et donc, effectivement, là, il y a une réalité congolaise qui fait que ça va être, effectivement, très difficile d'imposer ça. Mais je suis pas d'accord avec la deuxième partie de ce que l'intervenant disait. C'est pas pour des raisons techniques qu'il y a des difficultés d'organiser les élections, c'est pour des raisons politiques qu'il est difficile d'organiser les élections. Il suffirait qu'on donne les moyens à la CENI et qu'on donne les ordres à la CENI d'exécuter des élections complètes, transparentes et honnêtes. Et pour que ça se fasse, je dirais, ce n'est pas un problème technique. Il y a effectivement une question de délai. Et le délai de décembre 2017 ne sera évidemment pas respecté, non pas à cause du manifeste du citoyen, mais à cause de l'impossibilité dans laquelle le pouvoir a mis la CENI de réaliser son devoir. Et donc, effectivement, là, il y a une très grande difficulté de permettre le réel changement. Alors, voilà, je pense que la difficulté de réaliser cet appel du manifeste du citoyen est rappelée, hein, par exemple, dans un article de Colette Brinkmann aujourd'hui dans le journal Le Soir, mais elle dit aussi Mais au Congo, c'est souvent au moment où tout semble bloqué que surgit l'imprévu. Et donc, ce manifeste du citoyen est un des multiples appels de la société civile pour essayer de ramener le pays dans un ordre constitutionnel.
Professeur
Virgence. C'est de ce point de vue-là qu'il a peut-être des chances, non pas de se réaliser lui-même directement, mais peut-être une autre forme de l'appel citoyen vers une société plus constitutionnelle.
Professeur Virgence, donner les moyens et les ordres à la CENI, comme vous le dites, serait-il la réponse à l'impasse dans laquelle se trouve la RDC?
Oui, mais on imagine très difficilement le pouvoir actuel céder sur ce plan-là, puisque tout semble montrer que le pouvoir actuel fait tout pour que le président Kabila n'aille pas à affronter des élections. Et donc, effectivement, l'impuissance de ce soi-disant pouvoir à organiser des élections est probablement le résultat, en fait, d'une volonté de ne pas les organiser. Ça paraît assez évident à la plupart des Congolais. Et donc, effectivement, ce n'est pas un ordre simplement de la CENI qui viendrait du pouvoir politique qui changerait tout, puisqu'il faut encore que les moyens arrivent à la CENI. Et donc, ça, on imagine assez difficilement le pouvoir actuel organiser ça.
Merci.
C'est pour ça, d'ailleurs, que ce pouvoir a perdu beaucoup de légitimité aux yeux des citoyens.
Professeur André Mbata, on est dans l'impasse. Pensez-vous que le fait de dire c'est fini et Sili Kouadji, pensez-vous que cela suffit en guise de solution par rapport à l'impasse où se trouve le pays maintenant?
Bon, d'abord une petite précision. C'est sur l'article 70. Il ne faut pas confondre le mandat des sénateurs et le mandat du président de la République. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu lorsqu'on est arrivé à faire mandat, on devait recourir à l'article 160 et l'article 75 et 76. C'est-à-dire, la vacance devait être déclarée, le président du Sénat devait devenir président intérimaire de la République et pouvoir organiser les élections. Ça n'a pas été respecté. Donc, on évite cette confusion-là. Et deuxième chose aussi, les putschistes, il faut peut-être les trouver dans le cadre de la majorité présidentielle et non pas dans ceux qui veulent le retour. Le retour plutôt à l'ordre constitutionnel. C'est dans ce camp-là qu'il y a des putschistes qui ont asséné des coups et qui le continuent contre la Constitution. Et autre élément,
le
citoyen est en train d'être signé dans la République.
La solution, professeur, elle passe par quoi? La solution, professeur, elle passe par quoi? L'émission est en train de se terminer. En un mot.
La solution passe par la prise en charge du peuple souverain. Le peuple doit se prendre en charge et c'est un impératif catégorique. Et le peuple doit se mettre debout pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi nous avons dit, fini cette aventure d'aventurier.
Merci. Merci, professeur. Il nous reste moins d'une minute. Professeur Ambroise Kamukuni, pour vous, la solution, elle passe par quoi?
La solution, ça passe par l'organisation rapide des élections. Voilà pourquoi nous demandons aux acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, de se mettre ensemble pour que le soutien apporté à la CENI puisse nous emmener très rapidement à la clôture des opérations de recensement en cours et à la fixation des calendriers rapides afin que les organisations et l'organisation des élections aient lieu le plus rapidement possible. C'est ça qui porte.
Merci, professeur.
C'est ce que nous pensons pour aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un autre régime transitoire quelconque.
Merci, professeur. Merci, professeur. On a compris. Professeur Pierre Virgence, un mot en guise de conclusion. Pourquoi, comme le pensent certains analystes, on ne prendrait pas le président Kabila comme une partie de la solution plutôt que du problème?
Mais si le président Kabila s'était présenté comme une partie de la solution, évidemment, ce serait impeccable. Mais pour ça, on l'attendait en 2015 et en 2016. Et on voit bien que l'inaction du président et de ses gouvernements a mené le pays à une impossibilité d'organiser des élections. Donc depuis, effectivement...
Professeur. Souffrez qu'on arrête par là. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.